Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
S'il fallait n'en garder qu'un seul, ce serait celui-là sans hésiter, Monsieur Dumont, celui qui a secoué la pulpe de mon cerveau avec de la philo. Je me souviens de tout, de ses cravates, de son énorme cartable, qu'il arrivait en trompe dans la classe en déclamant des tirades de Ruy Blas. Il nous appelait par nos noms de famille, parlait très fort, ça me faisait peur. Il répétait toujours les mêmes formules. Le propre du vrai, c'est d'être réfutable. Le fou a tout perdu sauf la raison. Je m'en souviens, je l'ai dit encore. Je me souviens aussi des 6 sur 20 qu'il mettait à mes dissertations, de Blaise Pascal, de Kierkegaard. J'ai pas tout lu, ni tout compris, loin de là, mais le peu qu'il m'en reste, je le garderai toujours bien précieusement. Pourtant, Dieu sait que nous n'étions pas du même bord. Du haut de mes 18 ans, je le trouvais affreusement conservateur et misogyne. Mais comme il était surtout redoutablement intelligent, ça m'empêchait de rester toujours d'accord avec moi-même. C'est cela, je pense au fond, qui m'a fait le plus de bien. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, comme souvent le vendredi, c'est une rediffusion. Alors on a longtemps cherché quelle émission pourrait convenir à cette semaine particulière, pleine de bruit, de tristesse et d'effarement. Aucune, évidemment, ne faisait complètement l'affaire, toute trop décalée, trop soulignée. Mais comme il y a un temps pour le recueillement, nous avons fini par choisir des histoires de profs, des histoires vraies, mais qui, elles, au moins, finissent bien. C'est jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, des profs, des élèves, Ouvrir la voie, changer la vie, par Émilie Chaudet et Pauline Mocor.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Imène, j'ai 29 ans et je suis salariée dans la grande distribution en tant que conseiller de vente. J'ai une scolarité plutôt chaotique. J'ai redoublé mon CP. Mes parents sont analphabètes et du coup on m'a fait passer de classe en classe mais sans m'apporter une réelle aide en fait. J'ai plus détesté l'école que aimé l'école. Ça a commencé vraiment en maternelle, dernière année de maternelle, où voilà, moi j'avais des difficultés parce que j'avais des problèmes de vue. J'étais trop petite pour exprimer le fait que j'avais un souci. Et donc je suis arrivée en CP avec beaucoup de lacunes, de carences, et forcément ça s'est pas bien passé. Et voilà, j'avais une institutrice qui me brimait énormément parce que, par exemple, je prenais mon cahier à l'envers et parce que, justement, j'avais une très mauvaise vision. Alors, je me faisais punir régulièrement parce que elle partait du principe que c'était de la paresse. Et donc, c'était me pincer les joues, me mettre derrière le tableau, m'humilier ou dire, en gros, toi, t'es nul, tu vas au fond de la classe. Et elle s'occupait pas de moi. Je passe en CM1 et la rebelote, ça se passe mal. J'ai une institutrice qui nous fait travailler sur qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard. Donc je dis médecin parce qu'à 10 ans, tout le monde en veut d'être médecin ou pompier, ou ce genre de métier. Et là, ma maîtresse me dit « Ah non, toi, c'est pas possible, tu seras jamais médecin. Tu n'y arriveras jamais. » J'ai pas pleuré en classe parce que j'ai certainement pas envie de pleurer devant les copains de classe. Comme j'avais 20 minutes de marche jusqu'à la maison, j'ai pleuré sur le chemin et j'ai pleuré à la maison. Et mes parents m'ont dit « Si tu as envie d'être médecin, tu seras médecin plus tard. » Je n'ai pas cru parce que je me disais, ils m'ont dit ça parce que c'est mes parents. À ce moment-là, je savais que je ne serais jamais médecin. Ouais. Je le savais. Ça m'a conditionné quelque part dans toute ma scolarité à me dire que je n'y arriverais pas. Et ça ne m'a pas poussé à aller vraiment au bout des choses. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours à 50%, jamais à 100%. Ça arrive souvent que mes devoirs ne soient pas faits. Après l'école, mes parents me demandaient si les devoirs étaient faits. Je dis oui, oui. Et comme mes parents ne savent pas lire et écrire, forcément, ils ne peuvent pas vérifier. Et donc, je balançais mon sac et puis je vais jouer en bas avec les autres au square. Je suis allée jouer. Et mes devoirs n'étaient pas faits. Moi, j'ai grandi dans un HLM et famille nombreuse, donc dans un espace réduit, et quatre frères, on a envie de bouger, en fait, quand on est à l'extérieur. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de me dégourdir, quoi. J'arrivais pas à être en place. Pas de concentration, du mal à rester assise sur ma chaise, une envie perpétuelle de bouger, et d'ailleurs, dans la cour, je jouais pas à la marelle, je jouais au foot avec les garçons. Je pense que j'étais un petit peu turbulente et bagarreuse aussi, et assez violente. J'écoutais pas, en fait, hein, j'écoutais pas, c'est-à-dire que si la maîtresse me disait de me mettre en rang, je le faisais pas. Du coup, j'avais des cahiers de punition où il fallait copier 200 fois. Je ne dois pas parler en classe, je ne dois pas taper mes camarades, je dois faire mes devoirs. Et je faisais ça, je me souviens, je recopiais les lignes devant la petite maison dans la prairie. Ça voulait rien dire, ça avait pas de sens. Je m'en fichais, en fait. J'arrive au collège. Dans mon esprit, c'était tourner la page. Au collège, on sent grand, on passe à autre chose, c'est un nouveau cap. 12-13 de moyenne, c'est pas extraordinaire, mais quand on a eu des 3, des 4, des 5 de moyenne au plus fort en primaire, c'est une petite victoire pour moi à ce moment-là. J'ai aimé l'école quand j'ai rencontré en 5e professeur de français, Florence Salé, qui m'a énormément poussée à aller au bout de mes capacités, ne pas être à 50%. Voilà. C'est une jeune professeure à l'époque, qui avait 28 ans, et qui était pleine d'envie, et qui croyait en ses élèves vraiment. Alors, qui nous a poussé à lire, à écrire, à ne rien s'interdire. Voilà. Il est interdit d'interdire. Je me souviens qu'elle nous a raconté l'histoire de Tristan et Iseut. Moi, je me voyais dans l'histoire, quoi. C'est vraiment... c'était très intense, c'était... Moi, en tout cas, à cette époque-là, qui était très turbulente, de réussir à me scotcher du début jusqu'à la fin du cours, c'était vraiment... c'était fort. Je trouve que c'était fort. Et moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment qu'elle raconte encore. Elle le racontait d'une façon tellement extraordinaire, on avait le sentiment vraiment d'être plongé, d'être limite un personnage en fait, et de le vivre. On s'en proche de l'un, puis de l'autre, puis des deux, et c'est comme ça que j'ai commencé à me construire, parce que je savais déjà que... Ouais, moi j'étais pas orientée de la bonne façon, on va dire ça comme ça. Les garçons, je les aimais bien en copains, voilà, en potes, pas en amour. J'avais à peine 14 ans, donc Florence Allais, je la voyais plutôt comme une amoureuse, une grande amoureuse en fait. Je la vois comme la copine que j'aimerais bien avoir plus tard. Voilà. Je la trouve belle, je la trouve folle. Pour moi, c'était de la lignée de Björk. Les cheveux courts, un petit peu une mèche au niveau de l'œil. Marinière, jean brut Levis avec des Doc Martens, je la trouve cool. Et je me souviens que quand on avait cours le samedi matin, ça finissait par son cours de français. Et parfois, ça m'arrivait de rester un petit peu, de tenir un petit peu la jambe pour discuter avec elle. Et j'avais pas envie quoi d'être en week-end parce que je la voyais pas après quoi en fait. On me fait comprendre que je suis une fille. Une fille, ben, elle fait pas ce qu'elle veut en fait. C'est-à-dire que moi, ma mère m'a éduquée comme elle a été éduquée, sous l'autorité de son père, de ses frères, ensuite l'autorité de son mari. Voilà. C'était comme ça. C'est-à-dire que toute mon adolescence, j'ai été éduquée comme un oiseau en cage. Voilà. Un oiseau en cage, on lui donne à manger et à boire. Mais on ne laisse jamais sortir. Moi, c'était ça. Et moi, je me rebiffais tout le temps. Et je me souviens que je leur disais, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de me faire penser ce que vous voulez. Mais ce que je pense, c'est dans la tête. Et comme c'est dans ma tête, c'est à moi. Et vous pouvez rien contre ça. Florence Allais, elle m'apprend qu'une femme, c'est aussi fort qu'un homme. Et que je dois... faire ma place en fait, voilà, que je dois pas rejeter ma féminité et que je ne dois pas laisser le poids de la culture écraser mes envies, mes espérances. Mmh. C'est vraiment à ce moment-là, elle essaye de m'inculquer la liberté de penser, en fait. Voilà. Elle me le dit déjà par rapport à l'école en me disant « Tu vas prendre l'école comme une arme, tu ne vas pas te laisser faire et tu vas dire ce que tu aimes, ce que tu es et ce que tu as envie de faire. » C'est la première personne, en fait, qui a mis du soleil. Comme quoi, dans la vie, il n'y a sans doute pas de rencontres hasardeuses. Hein. On a un livre et il y a des chapitres. Et ensuite, j'ai rencontré une prof de français en seconde, Marie-Cécile, qui a fait une sorte de relais après le travail de Florence, en fait, hein, qui m'a poussée à écrire, à lire, qui m'offrait des livres aussi. Et je me souviens que quand elle n'avait pas cours et que j'avais des heures de permanence, elle lui elle en fait. Je pouvais y aller quand j'avais envie d'y aller, à n'importe quel moment. Et je me souviens qu'une fois, elle est partie en vacances avec ses filles et elle m'a laissé les clés donc pour 2 semaines. Et il y a des moments où, voilà, quand j'avais envie de décompresser, bah, j'allais là-bas. Et c'était un refuge sacré parce que, waouh, c'était impressionnant pour moi parce qu'il y avait des livres de partout. Je pouvais flâner, regarder, et lire et toucher à tout, en fait, quoi.
Comment ça s'est terminé pour vous, l'école ?
Mal. Mal parce que j'ai pas eu mon bac. Je l'ai repassé une deuxième fois. Pas eu non plus. J'ai été longtemps frustrée. Je me sentais honteuse. Vraiment honteuse. Donc ouais, aujourd'hui, je fais des pirouettes, en fait. Je me débrouille comme je peux. Il faut travailler, je travaille. Je dis pas que je fais le boulot de mes rêves, mais j'ai jamais fait de boulot jusqu'à présent qui me fascinait. Hein. C'est pas ce dont j'ai envie. Ce dont j'ai envie, c'est d'être sur les planches. C'est ça qui me fait rêver. C'est d'écrire, de raconter, d'être vu et écouté. C'est vu comme... regardez, en fait, ça s'est pas bien passé, l'école. J'ai toujours pas eu mon bac, j'ai 29 ans. Je l'aurais sans doute jamais, mais j'ai d'autres choses à donner.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Jean-Pierre Auriard, j'ai 55 ans et je suis professeur au lycée Paul-Éluard depuis maintenant 24 ans. Et en fait, je n'ai pas commencé ce métier à l'issue de mes études, puisqu'en fait, j'ai fait des études de sciences politiques et de droit. J'ai commencé à faire un doctorat donc de sciences politiques. Et puis, comme faire un doctorat, c'est très long, il fallait aussi que je me nourrisse, hein, donc j'ai passé un concours administratif et je suis devenu fonctionnaire. Fonctionnaire au ministère de la Défense, où je suis resté 4 ans. Je m'occupais de l'aspect juridique des contrats de vente d'armes. Ça peut paraître bizarre, c'était comme ça, à l'armée de l'air. Je crois que j'ai eu toujours envie d'enseigner, parce que quand j'étais étudiant, donc, bon, évidemment pour payer les études souvent, je faisais de la surveillance dans une école privée, une école primaire. Et ensuite, peu à peu, je suis devenu, on dira, un peu instituteur. Je remplaçais la directrice des après-midi et tout ça, et ça me plaisait beaucoup. J'avais un rapport avec les enfants qui était vraiment super. Puis à l'époque, donc, il y a eu un décret, le décret Jospin, qui était mis sur l'éducation, qui permettait donc, sans créer de poste, d'aller prendre des fonctionnaires de catégorie A dans d'autres ministères et de les faire venir au ministère de l'éducation pour qu'ils soient professeurs, en fonction évidemment des études qu'ils avaient faites. Donc moi, ce que j'avais fait, ça ressemblait à l'histoire-géographie finalement, sciences politiques et tout ça. Donc j'ai postulé, j'ai quitté le ministère le 31 août 1990, et le 1er septembre 1990, j'ai été propulsé dans le lycée, c'est le lycée Le Corbusier à Aubervilliers, où j'ai fait ma première année. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, hein. J'ai eu aucune préparation. Mais finalement, j'ai l'habitude de dire que j'ai pas été déformé par la formation qu'on peut donner aux enseignants, et ça m'a donné une liberté aussi, personnelle, de faire un petit peu ce que je voulais avec les élèves, dans le cadre évidemment du programme. Donc j'ai passé un an là, et l'année suivante, j'ai été affecté de manière définitive, j'y suis toujours, hein, au lycée donc Paul-Éluard. Je me suis retrouvé devant des adolescents de banlieue aussi, bon, c'est quand même un peu particulier. Et bon, voilà, j'avais fait pendant l'été, hein, j'avais acheté des livres d'histoire-géographie, j'avais fait des cours comme j'ai pu. Et ça s'est très bien passé finalement, et ça s'est toujours très bien passé avec les élèves les plus difficiles. Le rapport que j'ai eu, et que j'ai toujours avec eux, est un rapport exceptionnel. Par exemple, j'ai des élèves que j'ai eu en 95, donc un qui a 40 ans, il y a eu 40 ans hier, et que je vois toutes les, je sais pas, deux ou trois fois par mois. On se voit, il est marié, il a des enfants, mais il a eu besoin de me revoir. Il m'a écrit une lettre il y a quelques années, que j'ai reçue au lycée, en me disant, voilà, je ne sais pas si vous êtes toujours au lycée, mais je voulais vous dire ce que vous m'avez apporté, qui va changer ma vie, et j'aurais aimé vous revoir, si vous êtes là. On s'est revus, c'était très émouvant, parce que ce garçon que j'avais laissé à l'âge de 17 ans, je l'ai revu, donc il avait, je sais pas, 35 ans, costume cravate, il travaillait dans une banque, donc s'est retrouvé aux Champs-Élysées, donc moi, je l'avais pas reconnu. J'ai vu un garçon qui m'a sauté dans les bras, qui s'est mis à pleurer. C'était, voilà, je trouve ça extraordinaire, moi. Quand il m'a écrit, il m'a dit, voilà, tu m'as appris à être un homme, et j'ai pris des bonnes décisions en pensant aussi à toi. En gros, tu m'as appris la vie. J'ai appris à aimer la campagne avec toi. Je me souviens, une fois, j'avais amené un groupe de garçons un week-end. On avait été dans l'Oise, puis après au bord de la mer, du côté de Boulogne. Et je me souviens qu'à l'époque, ces gamins de banlieue qui habitaient à Saint-Denis, ils étaient tétanisés par la campagne. Ils étaient terrifiés. Ils me disaient, monsieur, il n'y a pas de bruit. On n'entend rien, mais c'est horrible, puis il y a des animaux. Il y avait des vaches, des animaux. Et alors après, il a grandi, il a eu des enfants, et il m'a dit, mais j'adore, quoi. J'ai adoré la campagne, tu m'as montré ce qui était beau, les musées, ou les choses comme ça. Et voilà, donc pour lui, ça a été un moment clé. Je crois que le fait que je l'ai amené là, qu'on s'était rencontrés plusieurs fois, on avait fait des petits repas ensemble et tout ça, que j'avais manifesté finalement une attention à ces gamins, qui n'en avaient pas d'attention, finalement, de la part des adultes, à part de leurs parents, mais leurs parents étant aussi dans le quotidien difficile, eh bien, je crois que ça lui est resté. Je pense que pour lui, je suis comme, alors, presque un grand frère, pas un père, voilà, cette référence qui est là, bienveillante, et puis aussi, bon, je suis sa référence, on dira, hors milieu familial, un petit peu. Et voilà, et donc je l'ai un peu accompagné. Et maintenant, effectivement, il ne se passe pas un mois sans qu'on se voit. J'ai toujours mis en avant, d'abord, le rapport humain. Je vois d'abord des individus, et ensuite des élèves. Et je pense que cette écoute-là, humaine, sans juger, ben je pense que ça leur fait du bien, et que ça prend pour eux une importance. Pour des adolescents, un adulte peut être quelqu'un de très important. Et donc je leur dis toujours, la réussite personnelle n'est jamais interdite à personne. Tu veux faire ça, mais écoute, tu as déjà au moins l'avantage de savoir ce que tu veux faire. Donc tu vas là-dedans et tu essaies de persévérer là-dedans, voilà, de faire. Moi, je te fais confiance et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et puis, il faut surtout croire en soi. Croyez en vous parce que vous avez une telle faculté, j'allais dire, de réussir aussi. Que vous en donnez vos parents souvent ou vos grands-parents sont venus en France avec toutes les difficultés de partir d'un pays d'origine, d'aller dans un pays souvent qui est hostile, eh bien, ayez cette énergie-là et réussissez. Il y en a certains qui me disent « Ouais, monsieur, j'aimerais bien faire de la politique, mais j'en ferai jamais. » Et pourquoi ? Mais vas-y, pourquoi tu ne ferais pas de la politique ? T'es français comme tout le monde, alors vas-y, lance-toi. Voilà, et je pense que si on arrive à donner à ces élèves des fois cette énergie-là, ils peuvent aller très loin.
Je m'appelle Siouzaf Tariq, étudiant en licence 2 d'économie et de gestion à Paris 13, à Villetaneuse. J'ai 21 ans. Je suis né à Saint-Denis. J'ai toujours vécu à Stein. J'ai passé mes classes de primaire jusqu'au collège à Stein, puis je suis parti à Pelleur. Monsieur Aurier, je me rappelle parce que au premier jour, lors de la pré-rentrée, en fait, j'étais tout nouveau et je connaissais personne et j'étais un peu timide. Et M. Aurier nous annonçait à tous qu'on allait partir au Guatemala. Et rien que cette annonce nous a tous rapprochés dès le premier jour, vous voyez. Et donc on se regardait tous, waouh, Guatemala et tout, et on était grave excités. Donc dès que j'ai vu M. Aurier la première fois, comme il s'est présenté à moi, c'est un peu comme un sauveur, je sais pas. Quand même, il nous emmène au Guatemala. Parce qu'au départ, je savais pas où c'était. Et donc quand j'ai vraiment pris conscience du pays qu'était le Guatemala, J'ai dit, oh, je vais quelque part quand même. La première fois on a parlé seul à seul, c'était, me semble-t-il, dans l'avion. Parce qu'au Guatemala, j'ai été puni. J'avais fait une grosse bêtise. Et donc, M. Aurière et M. Relâché m'ont puni pendant une semaine. Je devais rester tout le temps à côté d'eux. Et donc, du coup, au vol retour, j'étais à côté de M. Aurière pendant 8 heures de vol. Et on a fait connaissance. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert qu'il était vraiment, vous voyez. Je me suis un peu confié à lui. Il m'a écouté. Il m'a donné quelques petits conseils. Franchement, c'était touchant parce que c'est quand je lui ai raconté ma vie, il était à l'écoute. Il était grave attentif et j'étais touché, donc je me suis complètement ouvert à lui. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je lui ai parlé de comment je vivais. Il me demandait pourquoi j'arrivais en retard, donc moi je lui ai expliqué que je dormais pas le soir, que je faisais des bêtises dehors, que l'école ça m'intéressait pas et tout. Et après, il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a dit que, regarde, tu vois au Guatemala, garde l'image du petit, parce qu'il y a un petit guatémaltèque sur la route, qui était avec sa petite sœur. Et quand je l'ai vu, je lui ai donné un cahier et des stylos, et il a pleuré, vous voyez. Et là, Monsieur R, il m'a dit, garde toujours cette image en tête, et tu verras que dès que tu vas retourner en France, tu vas avoir le goût pour les études. Je l'ai écouté, et c'est sûr que ça s'est fait, comme il l'a dit, comme il l'avait prédit. Quand je suis rentré en France, je vais pas dire tout de suite, mais dans les semaines qui ont suivi, j'étais plus sérieux, je venais plus en cours. Monsieur Herr m'appelait le matin pour me réveiller, et à la pause de 10 heures, il demandait par exemple à ma professeure de mathématiques est-ce que Tariq était bien présent. Je pense qu'il voulait mon bien, et mon histoire l'a un peu touché aussi. Je dis pas que mon histoire, la plupart des gens en banlieue vivent la même, vous voyez. On a deux choix, c'est soit faire des bêtises, ou bien suivre l'école et tenter de devenir quelqu'un par la voie scolaire, vous voyez. On est tous confrontés à ces deux choix. Et M. Aurière le sait très bien, parce que s'il a enseigné en banlieue, c'est qu'il est au courant, bien sûr. Il en a eu des élèves. Et après, ce lien privilégié s'est créé à force que je le côtoie, à force que qu'on parle, qu'on se donne rendez-vous dans le café à Saint-Denis, qu'on discute, que je raconte ma vie, lui aussi me parler de la sienne. Et donc c'est un peu devenu comme un père pour moi, vous voyez. Mon père est super, bien sûr, c'est un très bon père, mais genre, il partait assez souvent en Algérie. Et donc, quand je racontais ça à Monsieur Aurière, comment mon père était avec moi et tout, il a sûrement senti que j'avais un manque d'affection paternelle, probablement. Il a voulu, je pense, prendre un peu cette place de paternel, à toujours être derrière moi et tout, à me trouver un travail pendant l'été, à vérifier que je vais bien en cours. Voilà, j'avais quelqu'un sur le dos. Et moi, c'est ce qu'il me fallait, avoir quelqu'un sur le dos. Et le fait qu'il me pousse comme ça vers l'avant, avec tous les souvenirs du Guatemala, ça m'a grave motivé. Au départ, j'étais tir au flanc. J'aimais pas l'école, j'étais tout le temps dehors. Franchement, j'allais à l'école pour aller à l'école. J'allais pas à l'école pour étudier, il n'y avait pas de but derrière, vous voyez. C'est M. Aurière qui a été l'instigateur de cette création d'un objectif chez moi. Il est apparu dans ma vie et ça a complètement changé ma vie, vous voyez. Le jour de mon anniversaire, il m'a offert un livre, L'encre de la miséricorde. L'histoire parle justement d'un jeune qui vit dans des conditions difficiles et après qui quitte ses parents, qui voyage, qui rencontre des gens et après qui change, qui n'avait pas d'objectif au départ. Et donc justement, l'histoire du personnage principal, je vais pas dire que c'était exactement calqué à la mienne, mais il y avait un petit pic quand même. Et donc j'ai beaucoup apprécié. Ça veut dire parce qu'en fait, ce que je voyais à travers ça, c'était le fait qu'il se prenne la tête à trouver un livre qui correspondait exactement à ce que je vivais et que j'allais aimer, vous voyez. Et donc c'est franchement ce côté-là qui m'a beaucoup ému. Donc c'est le temps qu'il a mis à trouver ce que j'allais aimer. C'est vraiment une attention énorme. Et donc il m'a motivé par la suite à lire des livres. Donc ça a été un effet boule de neige. Il m'a emmené voir Cyrano de Bergerac. Il m'a expliqué plein de choses sur des tableaux, sur des pièces de théâtre, sur des œuvres. Ce patrimoine culturel, j'en étais dépourvu, forcément. Je savais des choses. Mais par exemple, quand je suis rentré en prépa, il y a des choses que je connaissais pas et que les autres savaient, vous voyez. Parce que eux, ce patrimoine culturel, ils l'avaient naturellement, vous voyez. Alors que moi, je devais l'acquérir. Et de Monsieur Horière, ça, il le savait. Il m'a donné le goût pour l'école. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore dans les études. Sans lui, je sais pas. Franchement, sincèrement, je sais pas ce que je serais devenu. Il a été extrêmement positif pour moi. Extrêmement, vous voyez. Et il a motivé énormément de mes choix. Il m'a motivé à aller en prépa HEC. Des choses que j'aurais jamais pu... Enfin, je pense que si j'avais pas rencontré Monsieur Rier, déjà, j'aurais jamais su ce qu'était HEC Paris, déjà. Je vais pas dire que en banlieue, on est tous... on est marginalisés ou quoi que ce soit. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on vit tous, pour la plupart, avec ce complexe d'infériorité, vous voyez. Personnellement, ce complexe d'infériorité, il était présent avant. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais énormément confiance en moi, vous voyez. Et donc, dès que je voulais quelque chose, j'étais persuadé que je pouvais l'avoir. Et ça, Monsieur Horaire, il me l'a dit maintes et maintes fois. Moi, ma mère, elle me disait souvent que j'aime bien que l'attention soit portée sur moi, vous voyez. Mais Monsieur Horaire, il me l'a plutôt montré le côté positif de ce soi-disant défaut. Il m'a dit, ta qualité, c'est que t'as énormément confiance en toi. C'est certain, et c'est ce que je fais jusqu'au bout.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage d'Émilie Chaudet et Pauline Maucor, réalisé par Marie Placet et François Connac, diffusé pour la première fois le 17 mars 2015. Merci à Jean-Pierre Horière du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis et à Tarik. Merci à Marie-Caroline Legal, Nadège Galvier, Cyril Achard, Imen, Florence Salé, Mathieu Lefeuvre et Marc Ernoux. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire. Oh, I'm tired.